relier spiritualité et médecine. C'est l'objectif que s'est fixé Hélène Sayen dans l'ouvrage qu'elle vient d'écrire. Tomber malade, un cri de l'âme ? Cette accompagnatrice de vie, conférencière, formatrice, s'attache à comprendre en profondeur la nature humaine et le sens de la vie sur Terre. Radio Éthique lui a demandé si l'on peut dire que nous avons aujourd'hui une nouvelle approche de l'être humain qui ne se résume plus à une simple mécanique.
Oui, tout à fait, il est temps, il est grand temps, hein, parce que bon, on s'aperçoit qu'on est quand même, qu'on vit dans beaucoup de limites, et ce à tout niveau, et particulièrement dans le contexte de médical, hein, il est grand temps d'élargir la vision de l'être humain et de la voir sous un niveau beaucoup plus global, beaucoup plus holistique, hein, qui est le terme maintenant qui commence à être le plus répandu et le plus connu.
Vous parlez d'une espèce de fusion du corps, de l'âme et de l'esprit qui sont liés. Est-ce que vous pourriez nous faire une rapide définition de chaque élément ?
Mais écoutez, comment dire, c'est vrai que c'est... Enfin, je l'explique tout très en détail dans mon livre, mais effectivement, déjà, on ne peut être vivant que si une âme s'incarne à travers notre corps. Si vous voulez. Hein, le corps ne peut être en vie que si une âme s'y incarne. C'est une première chose. Donc l'âme, c'est notre essence originelle. Vraiment, c'est la source. C'est la source de la vie qui se révèle à travers le corps, si vous voulez. Ça, c'est la première chose. Puis l'esprit, en fait, est la liaison entre les deux. Hein, l'esprit, ou si vous préférez, la pensée, permet après, si vous voulez, de mettre les deux en rapport, en proximité. Est-ce que je suis claire ? C'est pas quelque chose de simple à expliquer. Chacun doit le ressentir aussi à son niveau, qu'on est vraiment constitué de ces trois éléments. Il y a l'essence originelle, il y a la matière dans laquelle cette essence s'incarne, et l'esprit qui sert de lien entre les deux, et qui permet à chacun des deux de se révéler, d'être, de fonctionner ensemble.
Est-ce que vous mettez une dimension divine dans cette âme ?
Écoutez, divine pour moi, c'est un sens très large. Et effectivement, l'âme pour moi vient d'une source, si vous voulez, où toutes les âmes en fait humaines sont issues. C'est quelque chose que je ressens depuis toujours très fortement et que je ne dis pas détenir la vérité, bien sûr, là-dessus. Personne n'en a vraiment, n'a vraiment la réponse à cela. Mais c'est un ressenti très fort qu'on vient tous d'une même source originelle, si vous voulez. Et donc, cette âme, après, vient sur Terre cheminer et évoluer, si vous voulez, pour un jour retourner à cette source régénérée. Est rempli de quelque chose de neuf, quoi. Voilà. Et qui l'a permis de grandir et d'aller vers quelque chose de plus lumineux.
Est-ce qu'on pourrait dire aussi qu'elle est faite de tous les affects, de tous les sentiments que nous ressentons, contrairement à l'esprit qui, lui, est plus cartésien ?
Disons que l'âme, les affects et les émotions, ça dépend quand même encore beaucoup justement de l'esprit. En fait, c'est un rapport avec ça. L'âme, disons, pour être plus précis, je dirais qu'elle est empreinte de mémoire, hein, de mémoire, de différentes mémoires sensorielles, sensitives, de vécu déjà. Qu'on a pu avoir, bon, c'est sûr que il faut avoir cette perception que l'âme peut avoir déjà cheminé dans d'autres incarnations. C'est un sujet bien particulier, mais pour moi, elle est empreinte surtout de mémoire. Alors, de mémoire antérieure, de mémoire aussi de cette existence, hein, de mémoire familiale, de mémoire générationnelle, mais c'est plutôt le terme mémoire, vous voyez, qu'affect et émotion qui eux, vont se connectent plus à l'esprit.
Donc vous dites tomber malade, un cri de l'âme, la maladie ce serait une désorganisation, une séparation de ce tout, de cette unité des trois éléments.
Oui, pour moi la maladie c'est surtout une mauvaise relation, si vous voulez, que avec l'accomplissement de soi ou avec l'univers, voyez. C'est effectivement une coupure, c'est... Oh, si vous voulez, chacun s'incarne avec quelque part une mission ou un cheminement bien particulier pour, si vous voulez, nourrir son évolution. Et à partir du moment où on est coupé de ça, parce que bon, on vit dans un monde où on est extrêmement conditionné déjà par notre éducation, puis après par la société, par plein de choses, quoi. À partir d'un certain moment, si on n'est plus à l'écoute de notre intériorité, on peut être coupé de ce sens originel d'évolution qu'on est venu incarner, si vous voulez. Voilà. Et donc, quand on en est coupé, au fond de nous, il y a une sorte de détresse qui s'installe, même si en apparence, on a l'air très heureux ou si on a l'air comblé matériellement et tout ça, il y a une sorte de détresse qui peut s'installer. Et si cette détresse perdure, si on n'arrive pas à retrouver justement notre véritable sens d'exister, ben là peut, si vous voulez, apparaître la maladie, mais non comme une punition, mais au contraire comme un moyen, si vous voulez, tout d'un coup de se reconnecter à notre sens d'existence originelle.
Une sorte de voyant de détresse.
Voilà, exactement. C'est une alerte. La maladie, c'est simplement une alerte. C'est un signal d'alarme pour chacun. C'est vraiment pas une punition. Au contraire, souvent, c'est une chance dans beaucoup de cas. Bon, c'est difficile d'employer ces mots-là parce que quand on est dans l'épreuve elle-même, c'est sûr que c'est extrêmement douloureux. Moi, j'ai été témoin j'ai accompagné pas mal de personnes autour de moi qui ont été vraiment dans des maladies très graves, etc. Moi-même, bon, j'ai pu aussi traverser quelques maladies durant ma vie. Donc quand on est dans l'épreuve, c'est extrêmement difficile de comprendre que ça peut avoir un sens, que ça peut nous apporter quelque chose de plus beau et de plus révélateur par la suite. Sur le moment, on ne peut pas s'en rendre compte, on n'en est pas conscient. Mais si on profite de la maladie en se disant que c'était simplement un temps d'arrêt dans notre existence, où justement on a l'occasion enfin de pouvoir se remettre en question, de pouvoir un peu être en tête-à-tête avec soi-même et d'écouter ce qu'on entend au fond de soi, je veux dire, c'est là, il y a quelque chose à un moment donné qui s'ouvre et qui vous reconnecte petit à petit avec le chemin que vous devez réellement prendre.
Ça veut dire qu'il faut écouter ce cri et il faut tenter de lui répondre. Comment est-ce qu'on peut retrouver un équilibre de vie ?
Pour retrouver un équilibre de vie, la première chose, c'est savoir s'arrêter, c'est savoir être à l'écoute de soi, véritablement. Et donc, si vous voulez, essayer de se couper mentalement de toutes ces croyances, comme je vous disais, de tous ces conditionnements, de son mental. Hein. Rappelez-vous que dans le mot mental, il y a le mot mentir, hein, le mental ment. Hein. Donc, nous sommes en fait empreints de plein de concepts, de choses qui ne nous appartiennent pas. Hein. Donc, l'essentiel, c'est de retrouver vraiment, par contre, ce qu'on est nous-mêmes, hein, ce qu'on est, notre essence véritable, voyez. Et à partir du moment où on est à cette écoute-là, on peut se régénérer très vite et on peut retrouver cet équilibre de vie en allant dans notre véritable direction.
C'est vrai qu'il y a une sorte de diktat aussi de la société, il faut être mince, il faut être beau, il faut être en forme, et notre corps, lui, ne peut pas répondre justement à cette apparence tout le temps. Est-ce que c'est plus difficile au XXIe siècle d'être à l'écoute de son corps ?
Oui, être à l'écoute de son corps, c'est une chose, mais effectivement, pour l'instant, c'est interprété simplement dans une forme de compétition. Il faut être le plus beau, le plus mince, le plus valorisé à ce niveau-là. Mais c'est pas à l'écoute du corps dans ce sens-là qu'il faut l'entendre. Il faut surtout essayer de comprendre l'intelligence du corps. Hein. Il faut pas essayer d'en faire un outil performant, mais il faut essayer de comprendre comment il fonctionne, ce qui veut dire, parce que je l'explique dans mon ouvrage, mais tout est merveilleusement bien fait dans ce corps, tout est en proche justement de cette conscience divine. Et je veux dire, même quand la maladie arrive, chaque organe a aussi un message à porter, si vous voulez, à transmettre pour traduire ce qui va pas à un niveau plus profond.
Comment aimeriez-vous que votre ouvrage change les gens, en fait, les lecteurs ou à son niveau la société ?
Oh, je n'ai pas cette prétention de changer les gens. Chaque personne y trouvera, je pense, quelque chose. Mais après, chacun en fera ce qu'il voudra. D'ailleurs, c'est ce que je mets dans mon avant-propos. Je ne vous oblige pas à me croire ou à entendre ce que j'écris. Je vous incite simplement à réfléchir, à juste lire ces lignes et réfléchir par vous-même, vous observer et puis tenter peut-être cette écoute intérieure que je vous propose et vous seul pourrez trouver trouver au fond de vous cette réponse qui vous est extrêmement personnelle, et après vous en ferez ce que vous voudrez. Mais ce que je fais passer par contre dans ce livre, c'est que vraiment c'est à la portée de chacun, de chaque milieu social, de chaque génération, ça peut être lu aussi par des enfants. Enfin, les enfants souvent même ont une conscience beaucoup plus développée que nous, et je veux dire, tout le monde peut s'y retrouver, parce que j'essaie justement à travers ce livre, par des mots simples, de parler à l'essence originelle de chacun. Et donc il y a forcément à un moment donné une résonance qui va se faire. Voilà, mais après, tout le monde est libre d'en faire ce qu'il veut, voilà.
Oui, c'est un message positif, un message d'espoir, puisque vous dites, quand on tombe malade, c'est un cri d'appel au secours, mais ça peut être une opportunité pour s'écouter, faire autre chose.
Bien sûr, c'est une opportunité de renaître à une autre partie de nous-mêmes, d'approfondir notre connaissance de soi, et puis de se révéler à une autre partie de nous-mêmes encore inexplorée ou alors occultée, et qui fait qu'on ne se sent pas encore suffisamment justement épanoui et en accord. Si vous voulez, si tous les gens vraiment abordent la maladie sous cet aspect-là, chacun pourra se rendre compte qu'effectivement on ressent quand même à un moment donné si on est triste intérieurement, si on n'est pas dans une vie qui nous semble fluide ou en harmonie. On traverse des périodes comme ça. Bon, souvent on se dit, bon, allez, je vais faire avec, je vais continuer ma route, ça me passera, bon, je vais prendre des médicaments, ça va être la solution à mon malaise du moment, et puis ça va aller. Non, c'est beaucoup plus subtil que ça. Je veux dire, cette harmonie, on peut tous la retrouver, mais pas forcément toujours par ces moyens extérieurs. Bon, ils sont nécessaires, je ne les rejette pas non plus dans mon ouvrage, mais l'essentiel, c'est revenir à cette source qui nous habite et qui est là avec tous les messages qui nous concernent et qui sont vraiment les principaux pour notre bien-être et pour notre réalisation personnelle.
Mais qu'en est-il aussi de la maladie très avancée, d'un cancer très grave, par exemple ? Est-ce qu'on peut là aussi se dire, je vais écouter et trouver la solution par moi-même ?
Il n'est jamais trop tard pour être à l'écoute de soi. La maladie fatigue, certes, hein, elle épuise. Donc à un moment donné, on peut tomber dans une certaine lassitude qui fait que bon, le découragement s'installe et il y a plus la force, hein, d'être à l'écoute. Mais quelque part, même, vous savez, vous verrez dans le livre, je cite une pianiste qui a vécu, qui est décédée en 1958 et qui pendant 30 ans est restée grabataire. Parce que dès qu'elle faisait le moindre effort, elle avait des crises cardiaques, et à l'époque, il n'y avait pas les moyens de la soigner et d'éviter ce genre de malaise. Donc pendant 30 ans, elle est restée grabataire à côté de son piano, qui était sa joie, son bonheur, où elle pouvait justement se révéler et s'exprimer. Et donc, elle a écrit un livre qui s'appelle Servitude et grandeur de la maladie, qui est extraordinaire, où elle exprime justement que pendant tout ce temps-là, où elle est passée par tous les sentiments, toutes les émotions, tous les découragements, eh ben, effectivement, il y a quelque chose qui continuait à la nourrir, à lui apprendre des choses sur elle, sur la vie, sur ce divin, justement, sur l'âme, etc. Et en fait, elle a compris que bon, l'essentiel pour l'homme, c'était d'aller vers sa quête et vers sa spiritualité personnelle. Donc, il n'est jamais trop tard. Mais après, le tout, c'est de se dire que c'est possible de croire quand même, enfin d'y aller, quoi, de tenter et de se dire que c'est pas à travers des choses extraordinaires, c'est à travers une écoute toute simple, infime même parfois, mais qui peut être tellement révélatrice et tellement ample dans ce qu'elle peut apporter.
Je vous remercie beaucoup, Hélène Sayen.